je m'appelle Yves Alain Carrier. Et je suis un fils de bistrot. C'était un grand café. Je ne dis pas que c'était un grand café pour me, parler du niveau des clients du café, mais tous les gens que j'ai connus dans ce café m'ont beaucoup aidé. Et puis j'ai fréquenté des gens, aujourd'hui je me rends compte que c'était des gens assez exceptionnels. Ça, c'est une chose. Fils de bistrot, donc je m'appelais Yves, et très rapidement j'ai été Vivou. Mais dans ça là, on parlait de Vivou, c'était moi. Pourquoi ? Parce que j'étais un fils du café, et on me connaissait par les clients du café. Ça, c'était une chose. Et ce café a été pour moi, j'ai vécu dedans. C'est-à-dire que j'allais à l'école, c'était dans la traverse, là, en bas, là. Et j'allais à l'école, je posais mon cartable, bon, après ça j'ai l'école maternelle, évidemment, mais je posais mon cartable en bas de l'escalier, et j'allais dans le café où j'avais une table, et je dessinais. Alors les compliments que je n'avais pas à l'école, je les avais par les clients du café. Je me disais, hey, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Et j'ai fait ça. Oh, tu me le donnes? Eh bien oui, oh, moi, tout de suite. C'était une gloire. Et j'étais content. Mon père était moins content, mais dans le fond, il était remarquablement intelligent, il était très spirituel. Mais il oubliait de temps en temps qu'il était mon père, alors ça lui faisait plaisir. Moi, j'ai ma table. Et ça m'a permis de voir arriver des gens qui venaient en Périgord, pas que des Périgordais. Il y avait tous les clients ici que moi j'avais la chance de connaître, et que des gosses qui n'avaient pas un lieu public pour les rencontrer ne connaissaient pas. On savait qu'un tel était charcutier, était s'il était là, mais bon. Moi par contre, je connaissais d'abord tous ces gens-là et qui me connaissaient. Et ceux qui rentraient dans le café aussi. C'est-à-dire que j'ai pu approcher des gens, des écrivains, des artistes de cinéma. Bon, il se faisait beaucoup de films ici. Qu'est-ce qui se passait? Ben, ils venaient au café. Et puis moi, en étant distrait, parce que mon père nous avait dit à mon frère et à moi, vous n'entendez rien, vous ne voyez rien, vous ne dites rien. Bon. Il y avait un ping-pong, il y avait un billard. On pouvait tenir la main aux clients. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de partenaire. Alors donc, tu viens, on va faire un ping-pong, on va faire un billard. Mais il ne fallait surtout jamais gagner devant un client. On savait bien où jouer. Mais c'est ça, c'était ça. Bon, mais enfin, ça n'empêche, le client, c'était ça, le client au café était chez lui. Ça, c'est une chose. Et alors, bon. Le lycée, le collège, l'école laïque d'abord, et puis après, le collège. J'ai eu ma façon d'aller à l'école. Qu'on m'apprenne quelque chose, ça m'emmerdait. J'ai jamais attrapé assez. C'est-à-dire, les leçons, s'il y en avait un qui passait avant moi, je n'avais pas de problème. Mais je ne les apprenais pas, et les devoirs, c'était un peu comme ça. Alors, évidemment, je réglais tous les problèmes scolaires. J'étais réglé des problèmes, c'était pas. Mais j'avais dans ma table au collège, j'avais mon matériel. On avait ces tables-là avec un petit truc dedans, en dessous, là. Sans tiroir, évidemment. Mais j'avais de la pâte à modeler, j'écoutais d'une façon assez distraite les cours des profs au collège. Mais moi, je continuais à faire ce que j'avais envie de faire. C'était la gueule d'un copain, le machin. Continuellement. Si bien qu'un jour, tous ces professeurs qui venaient boire l'apéritif ou jouer à la belote dans le bistrot de mon père ne les emmerdait pas avec ça, si ce n'est qu'un jour, il leur a dit, le gosse, Carrier, ton gosse, on l'aime beaucoup. Il nous emmerde pas. On n'a pas de reproche à lui faire. On l'interroge, il nous dit ce qu'il a envie de nous dire. C'est parfois, on dit, bon, tiens, là, il y a quelque chose, il a l'air au courant. Mais il fait ce qu'il veut. Alors, tu vois, mon père n'était pas très satisfait de cette. Mais bon. Et alors, ce qui s'est passé, ce qui devait arriver, j'avance là. Le bac est arrivé. Alors là, j'avais des notes à peu près à la moyenne. Pour moi, c'était suffisant. Et le bac arrivant, j'étais collé une fois, deux fois, trois fois. Puis on repassait en septembre, je ne sais pas si j'étais au courant. Alors là, ça s'est pas très bien passé. Ça s'est pas très bien passé. Et mon père, voulait passer au bac comme tous les parents. Un jour, j'étais au fond du café et j'étais en train de dessiner. Et rentre un type. Hé, Albert, comment ça va? Et mon père lui dit, tiens, ils t'ont relâché à Paris? Oui. Ça va? Oui. Angèle, comment ça va? Mais ça va, ça va. Et les gosses, on ne parle pas. Tiens, tu as l'aîné, là, il est là-haut, dans son bureau, il va travailler 2 heures sur un problème. Je ne sais même pas s'il le trouvera, mais enfin. Il est en train de bûcher. Et j'en ai un autre, l'autre, il était le crétin là-bas, il est là-bas, tu vois, le dessinateur, là, l'emballeur. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Et l'autre lui dit, mais pourquoi tu aimes pas les artistes? Bah écoute, je t'aime bien, mais ça n'empêche pas. Et le type s'approche, j'étais en train de dessiner. Il est là, le dessin, là. Ma grand-mère m'avait dit, est-ce que tu peux pas me faire une étiquette pour mon vin de noix? Qu'elle faisait à titre personnel. Elle était à Gaillardou, elle n'était pas là. Ils étaient à Gaillardou, mes grands-parents. Alors, j'étais en train de lui faire cette étiquette, et alors, machin, que je connaissais pas, il était derrière moi. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais, là? Je lui dis, voilà. Ma grand-mère m'a demandé de lui faire une étiquette pour son vin de noix. Il a bien vu. Ah ben oui. Ben j'ai pris la moitié d'une coquille de noix, j'ai mis un pied, ça fait un verre. Et à ce moment-là, le gars prend ma page, c'est un petit carnet comme ça, la déchire et du fond du café, il dit à mon père, Albert, ton gosse a l'idée réflexe. Il sera affichiste. Et mon père lui dit, l'idée réflexe, le bac d'abord, après on verra. Mon père a eu tort. Et Ogalo a eu raison, parce que c'était Ogalo. Le type qui dit Bendom et compagnie. Alors, je peux te dire que ce gars-là, je ne l'ai pas lâché. Mais lui, il repartait à Paris, tu comprends. Alors bon, j'avais eu ça. Et je me suis dit, il n'y a pas que ma grand-mère qui va m'aider à être artiste, parce que là, maintenant, j'ai quelqu'un qui va parler pour moi. Et ça a commencé comme ça. Et j'ai continué, il y a des types qui sont descendus, que j'ai connus. Paul Éluard, j'ai été copain avec Paul Éluard, parce qu'il était marié avec une fille du Mas, là, qui était une amie de la famille, sa dernière femme, qui s'appelait Odette, il l'avait appelée Dominique. Il venait boire l'apéritif pendant qu'elle faisait les courses en ville. Et il était là, et ben moi j'étais à côté de lui. C'était mon copain. Et puis il y a un tas de gens comme ça que j'ai connus. Et je vendais ma camelote d'artiste. Et j'ai eu des conseils, et puis il y a un type, après ça, il y a eu un type assez exceptionnel. Tiens, ses petites filles étaient là il y a 8 jours. C'est un type qui s'appelait Benari. C'était un Lituanien, mais qui était professeur de beaux-arts à Moscou, je ne sais pas où, parce qu'évidemment la Lituanie était plus ou moins. Et c'est un type exceptionnel. Il prenait un antique grec, il dessinait, il faisait l'ongle sur le pouce, il commençait comme ça, et en montant, il te sortait un type, une sculpture extraordinaire, de toutes ces sculptures grecques. C'était un type d'une qualité rare. Il était juif, mais il avait choisi la religion catholique. Il s'était converti, il allait à la messe. Mais quand les juifs ont été pourchassés, il a voulu avoir le sort des juifs. C'est-à-dire qu'il a été déporté en France. Et il a dérouillé. Il avait sa famille ici, il était obligé plus ou moins de se planquer, et il travaillait chez un architecte qui n'avait pas beaucoup de talent, mais lui, il était aussi architecte. Alors c'est lui qui faisait le boulot, et c'est un peu comme ça que je l'ai connu. Et je dois dire que j'ai pas eu à me battre pour être, pas ami, mais presque, avec ce type. Et alors là, ça m'a beaucoup aidé, et je l'ai fait rentrer dans la résistance pour pas qu'il ait de problème. Et à ce moment-là, parce que la résistance, on a commencé à 16 ans d'aller dans la résistance. Mais on jouait à Tarzan. C'était pour nous, on prenait des risques sans le savoir d'ailleurs. Enfin bon. Il vaut mieux faire ça que déconner à l'école. Et puis, alors, on a fait les affiches de la résistance. Mes parents nous ont donné une pièce. C'était formidable. Et il m'a dit ce que Ogalo m'avait dit. Attention, Alain, méfiez-vous de vos idées. Parce qu'une idée, c'est très bien, encore faut-il la réaliser. Et ça, c'est autre chose. Il faut apprendre à dessiner, il faut faire ça. Et c'est là un peu que j'ai commencé à m'apporter quand même certains éléments, et surtout de m'éduquer. Et il m'a dit après, à la fin de la guerre, Il me dit, il remontait à Paris parce qu'il était directeur artistique de la Metro-Goldwyn-Mayer, c'est-à-dire que tous les films passaient par lui, ici, en Europe, c'est-à-dire. Et il faudrait quand même, pour faire l'affiche, parce que je faisais des affiches avec lui, là, comme ça, il me dit, il faudrait quand même aller un peu plus loin. Il y a un type qui a une école qui s'appelle Paul Collin. Et on est partis tous les deux à Paris, comme un truc de mission, quand même, on appelle ça. Et je me souviens, on allait juste avant à Orléans. On ne pouvait pas passer parce que le pont était bousillé par les bombardements. On marchait sur le bord, là, où il y avait un autocar qui nous prenait. On allait ailleurs, dans un autre pont, pour y aller à Paris. Et à Paris, il m'a amené chez Paul Collin. Il avait pris rendez-vous. Il m'a mis devant. Il a sonné. Quand la bonne femme, la femme de ménage est venue, a ouvert la porte et dit « Alain, bonne chance ». Et il est parti. Et je me suis trouvé chez Paul Collin. Paul Collin me reçoit, il dit « Oui, on va parler de vous, qu'est-ce que vous savez faire ?» Collé au bac, mon père, toujours très spirituel, m'avait dit « Tu veux faire de la peinture ?»« Oui, je veux faire de la peinture. » « Ben, tu vas en faire », il m'avait instruit à l'artisanat rural de Sarlat, section peinture en bâtiment. Heureusement qu'il y avait un professeur qui avait joué au rugby avec moi et tout ça, qui était un type remarquable, qui avait fait des études en Belgique, dans une école spéciale. Et j'avais appris à faire des lettres. Mais je faisais des rechampis, du faux marbre, du faux bois, enfin, tout ce qu'on peut apprendre dans une section de peinture en bâtiment. Et je dis à Colin, je fais le faux bois, non, mais ici c'est du vrai bois, c'est du faux marbre, il dit c'est du vrai marbre, je dis à vrai ça, qu'est-ce que vous savez faire? Mais je sais faire les lettres. Et il m'avait appris à faire les lettres avec un pinceau et des poils longs comme ça. On posait ça, on tirait. Je lui dis, je sais faire les lettres comme les types qui sont dans les foires expositions. Il y a toujours un type avec une boîte de peinture et puis qui fait les panneaux pour les exposants. C'est un peu comme ça. Ah, on va voir ça. Il prend une feuille de papier, quatre punaises. Il arrive avec un verre d'encre de Chine, un pinceau, bon, qui était... Des pinceaux, prenez-en, choisissez, là. J'en vois un qui avait les poils un peu longs. Et je dis, voilà. Bon, vous savez faire les lettres? Bon, alors écrivez-moi impeccablement Paul Collin. Alors je commence. Alors il me donne des tire-lignes, des machins, des compas. Non, non, je dis, non, tout ça. Je mets des points de repère et je commence. Et je commence à faire le père, comme ça. Et il s'en va, je lui dis, partez pas, j'en ai pour 3 minutes. J'ai autre chose à faire que de vouloir faire des lettres. Mais enfin, quand même, ça part pas mal. Et puis bon, il était là. Et je te lui sors un Paul Collin, comme ça, un Paul. Voici signé Paul et Collin dessous. Alors ça, je le savais. Je commençais à faire le Paul, tout ça. Ah, il me dit, oui, alors ça, vous savez faire les lettres. Bon, je continue, puis je te dis, ça a duré quoi, 5 minutes à peine. Et ce type me dit, ben écoutez, vous ferez les lettres de mes affiches, je vous engage. Rencontre-moi, j'ai 20 ans, je suis à Paris devant le plus grand affichiste, et qui me dit ça? Et alors, moi, j'avais illustré un bouquin sur le maquis et tout ça, avec des dessins dont je n'ai pas encore honte de ces dessins-là. Et je lui ai montré, il dit, oui, bon, mais c'est très bien, quand vous saurez dessiner, ça sera mieux. Mais bon, et puis voilà, on en est là. Et le gars me dit, J'ai dit, oui, mais c'est très bien. Moi j'habite Sarlat. Dans le Périgord. Oh, mais écoutez. Ici, il y a une piole, c'est un hôtel particulier, il y a une piole là-haut. Vous avez de quoi vous laver le cul si ça vous arrive. Et vous habiterez là-haut et vous vivrez ici avec nous. Et il me dit, après ça, incidemment, mais en Périgord, vous devez savoir faire la cuisine. Ah oh, oui, je lui dis. Moi, je voyais ma grand-mère, puis je. Écoutez, je lui dis, mais combien ça va coûter à mes parents? Il dit, parlons-en. Vous allez venir là, vous ferez la cuisine, un peu de cuisine. Et vous allez travailler à l'atelier avec moi. Vous mettrez un peu d'ordre dans l'atelier. Vous ferez un peu les escaliers, il y avait 3 étages. Et vous ferez pisser le chien. Et vous travaillerez à l'atelier avec moi. Et vous prendrez les sujets qui arrivent et on verra ce que ça donnera. Moi, je reviens de Paris. Je dois dire que les pompiers ne m'attendaient pas au train, là. Et j'étais engagé à Paris. Ma mère commençait à s'inquiéter, ce pauvre petit, ceci, cela, bon. Et je suis reparti à Paris le 1er janvier 45 avec un poulet. Et ma mère, si on ne l'avait pas retenu, elle envoyait un poulet tous les 2 jours. Enfin, bon, ça s'est bien passé. Et puis moi, je faisais la cuisine. Je faisais la cuisine des poulets, des canards qui arrivaient et tout ça. J'étais arrivé. Et puis il était avec une amie qui s'appelait Hispanita Cortés. Et elle avait 2 ans de plus que moi. Elle avait 22 ans et moi j'avais 20 ans. La pépé, disons. C'est une grande vedette. Et lui, il avait 40 ans de plus que nous. Et il la traitait comme moi. C'est-à-dire les insultes, les mensonges, la mauvaise foi et tout ça. Alors là, ça tombait à. Ah, il y avait sûrement quelque chose qu'il ne fallait pas faire, c'est être gentil avec la fille, qui était adorable d'ailleurs, mais enfin bon. Et ça a été quelque chose d'extrêmement important. Le métier d'abord, le reste après. Enfin, ça s'est très bien passé comme ça. Et les sujets arrivaient, par exemple, un jour est arrivé un sujet, les crimes nazis. Parce qu'il avait c'était vraiment le grand patron, quand même. Il me dit, tiens, vous qui avez fait le maquis, faites-vous des dents là-dessus. Moi, je prends la croix gammée, je vois un mec en croix sur la croix gammée, mais c'était pas le Christ, c'était un découpage du papier. Il regarde, mais il m'engueule. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais il y a les manouches, il y a les juifs, il y a les ci, il y a les là, il n'y a pas que le Christ. Mais je lui dis, mais c'est pas un Christ, taisez-vous. Bon. 3 jours après, il me dit, bon, vous tendez un châssis. Alors, les châssis, c'est comme les châssis de toile, mais c'était avec du papier. On mouillait le papier, on l'étendait, puis bon, ça faisait une toile, mais avec du papier. Et il fait un ciel. Là, devant moi, il met une croix gammée dans le ciel. Et sur la croix gammée, il met un truc en croix. C'était une femme, alors il fait tomber la chevelure devant la gueule de la femme. Elle est en croix, et ben, il lui coupe la moitié d'une jambe. Mais c'était les crimes nazis. c'était quand même assez chouette. Je dois en avoir ici un truc comme ça, une reproduction. Il me dit, faites-moi les textes. Il me donne les textes, il fallait mettre les crimes nazis, je sais pas quoi. Et la signature. Je lui dis, il faut dire que j'étais imprudent. Je lui dis, je fais la signature aussi. Mais non, mais vous prenez pour qui? Et alors je lui dis, ben voilà le pinceau, alors. Puis là, il a foutu Paul Collin. Et ça, ça m'est arrivé 4-5 fois, de lui apporter une idée. Mais la réalisation, c'était quand même lui. C'est ce que m'avait dit au galop, et Perret, le père machin, là. Il était mon copain là, avec qui je travaillais. Les idées, c'est bien, mais il va falloir pouvoir les exprimer maintenant. Et les exprimer, ça, c'est un travail. Et alors, je dois dire que son affiche était merveilleuse. J'ai eu d'autres idées qu'il a pris. Eh bien, à 20 ans, au lieu de dire « Merde, c'est un salaud, il me pique mes idées », non. J'étais fier. J'étais fier parce que je savais, j'avais appris et je savais que l'important pour une affiche, c'est d'abord l'idée. Et c'est comme ça. C'est l'idée réflexe. Et puis après, ben, y a le boulot. J'ai jamais appris à dessiner, mais j'ai dessiné. Et finalement, j'ai toujours pu m'exprimer. Un jour, on me dit, il faut faire une affiche pour Anne Chapelle. Anne Chapelle, on ne savait pas qui c'était. Je vais chez Anne Chapelle un matin à 9h. Je lui dis, ah, c'est toi qui dois faire mon affiche. Oui. Elle était en robe de chambre. Je voulais faire son portrait, quoi. Moi, c'était la moindre des choses. Elle laisse tomber sa robe de chambre, elle était à poil. Ben, je lui dis, pour faire le portrait, j'ai pas besoin que tu sois à poil, mais que ça peut te foutre. Ça te gêne que je sois à poil? C'est mon métier. Ah oui? Je suis modèle à Montparnasse. Ah bon? Et je lui dis, pourquoi tu changes de métier? On m'a dit que j'avais une belle voix, que ça pouvait marcher. Et puis j'en avais marre. J'étais à Montparnasse. Il y avait un endroit où on allait poser. Ça, j'y allais, moi, d'ailleurs, aussi. Et alors, elle m'a dit, tu comprends, moi, j'arrive, je suis à poil, il y a 10 mecs autour de moi, des bonnes femmes et tout. Il y en a un qui me dit, la jambe, la tête, lève la tête, baisse la tête, à gauche, tourne, mets-toi de profil dessus. Là. Et ça me fait chier. Elle avait fait l'affiche. J'ai fait une affiche où elle est dessinée de trois quarts, et j'y colle dessus une ombre, qui est son profil. Et c'est l'affiche qui m'a lancé dans le show business. C'est un grand classique du show business. C'est tout, c'était terminé comme ça. Puis après, j'ai joué un film pour jouer et tout ça. Et j'ai commencé à travailler. Mais il faut savoir une chose, ma femme, qui était une femme périgordine d'ici, une fille d'ici, quand j'avais une commande, elle avait un carnet, elle marquait au crayon la commande. Elle le passait à l'encre quand j'étais payé. Il n'y a pas eu beaucoup de taches d'encre, mais enfin, j'ai démarré comme ça. Et après ça, j'étais marié, les chambres de bonne, on sait ce que c'est, on n'a pas pu... c'était pas brillant, pas la joie, mais enfin bon, le pognon, il n'y en avait pas beaucoup. Enfin, on arrivait à boire, à bouffer normalement, et on s'est dit, il faudrait peut-être essayer d'avoir des enfants. Alors là, la fantaisie, c'était fini, le livre. Le livre écrit au crayon, c'était terminé. J'ai pris mon dossier, je suis allé, j'ai tourné, j'ai viré. Je suis allé au printemps, puisque c'était des Périgordins qui étaient patrons du printemps. La bonne femme qui m'a reçu, qui m'avait dit que j'avais trop de talent pour travailler pour le printemps. Elle était arrivée à coup de canapé là-dedans. On sait ce que c'est, la promotion canapé. Enfin, elle était là. Bon, je quitte le printemps, je fais 150 mètres de plus, je vais aux Galeries Lafayette. Je tombe sur un type remarquable qui me dit, mais c'est très intéressant ça. Mais vous pouvez faire des affiches, oui. Mais vous savez, ici, c'est comme la presse. On n'a pas de délai. Bon, mais peut-être, oui. Il me file 3 sujets d'affiches. Je fais les 3 sujets d'affiche. Le lendemain soir, elles étaient sur son bureau. Putain, tu te rends compte? Et 8 jours après, tu es sur le magasin. Et tout, les Galeries Lafayette, il y avait mes 3 affiches sur les vitrines du grand magasin. Comme tous ces types-là, le printemps, les Galeries Lafayette, Ils vont voir ce que les autres font et tout ça. Le directeur général des prises uniques, Andrieu, qui était de la Chapelle au Barreil, qui était un monsieur important d'ailleurs, c'est parti de la gérance, il fait le tour et il m'appelle. Il me dit, alors Alain, on n'est plus Périgordin? Je lui dis, pourquoi? Mais vous travaillez pour les Galeries Lafayette. Alors le printemps n'est pas assez beau. Ben je dis si, mais alors je dis mais je suis allé me présenter au printemps. On m'a dit que le printemps ne méritait pas mon talent. Rendez-vous lundi matin à la SAPAC, c'était les achats. À 10h. À 10h, j'y étais. Et il appuie sur un bouton. Dites à Madame Dubois de monter. Madame Dubois, c'était Dubois dont on faisait les flûtes. Alors elle est arrivée. Elle lui a dit. Le type lui a dit. Alors, le printemps ne mérite pas le talent de monsieur? Oui, mais vous savez, j'ai le grand plaisir de vous offrir le talent de M. Carrier. Arrive à ce moment-là la directrice du personnel et dit, Gabriel, vous prenez M. Carrier sous vos bras et vous allez l'engager immédiatement. Je faisais la publicité, j'avais fait mon agence à ce moment-là, pour les Jersey Pirani, les Jersey. Une femme formidable en Bourgogne, elle était de Chagny, cette femme-là, une maîtresse-femme. Un jour, elle m'a dit, Alain, vous allez être content, on va faire une belle campagne. J'ai mis au point des jerseys imperméables. C'est de la laine, mais imperméable. Et puis moi, je dis, ah oui, c'est intéressant. J'avais comme copain Jules Ladoumègue. Tu sais qui c'est, Jules Ladoumègue? C'est le plus grand champion du monde, de tous les mondes, des records du monde, de 1500, 3000 et 5000 mètres. C'était Jules Ladoumègue, c'était un type de Bordeaux d'ailleurs, mais il était mondialement connu et tout ça. Et Jules Ladoumègue, il y avait 50 ans, c'était mon copain, et à 50 ans, ce con, il fait deux jumelles. Et puis on ne les payait pas, les champions, à ce moment-là. C'était des amateurs. Quand ils allaient dans un... une rencontre, c'était à leurs frais, les voyages. Alors, mon Jules, bon, il était au-dessus de... Tu sais, il y a eu Antonin Magne dans le cyclisme, comme il y a eu Anquetil après, comme sûrement c'est des types qui sont au-dessus de tout ça. Putain. Il m'a dit un jour, qu'est-ce que tu en penses? On me demande de courir contre un cheval ou après dans une manifestation. Ben, je lui dis, qu'est-ce que ça peut te foutre? Pourquoi tu le fais pas? Bon. Et moi, l'autre avec ses jerseys imperméables. Il me vient une idée, j'ai dit, putain, avec tous les clubs de supporters qui vont se cailler les couilles le dimanche au stade, mais c'est peut-être un truc formidable. Bon. Je travaillais avec les journaux, tous les grands journaux de mode et tout ça. Je dis à Simone Baron, la patronne de Elle, je lui dis, dis donc Simone, qu'est-ce que tu penses de ça? Oh, mais tu me le gardes pour moi, ça. Je fais un article, mais alors, surtout tu dis rien à personne. Je lui dis, je te le dis à toi. Terminé. Je t'appelle Jules, Ladoumègue. Je lui dis, est-ce que tu aimerais courir contre un cheval à la mi-temps de tous les matchs de football? Putain, il m'a dit, oui. Bon. Et moi, très gentiment, mais ça me presse. Je téléphone à la présidente, je dis, voilà. J'ai une idée de lancement de votre jersey imperméable. Voilà ce qui va se passer. Secret pour tout le monde. Je ne l'ai dit qu'à Jules Ladoumègue et à Simone Baron. La vieille, sans se démonter, Alain, vous me préparez un rapport là-dessus et choisissez le week-end où vous voulez venir à Chagny avec Simone Baron et Jules Ladoumègue. Un week-end. Vous venez avec madame. Je dis non, on ne mélange pas tout. Ne vous inquiétez pas. Et moi, je lui fais un rapport. Dans les 8 jours, elle a son rapport. Elle nous invite un week-end chez elle. La maison, je ne te dis pas ce que c'était extraordinaire. Ce n'était pas un château, mais pire que le château. Chagny, c'était l'Ameloise, c'était le grand restaurant qui était... Il y avait 3 grands restaurants à ce moment-là. C'était à Chagny. Et il y a un repas le soir à Chagny, avec Jules Ladoumègue. Alors, je ne te dis pas le restaurant, il y avait du monde, mais enfin, quand les gens ont su qu'il y avait Jules Ladoumègue, ils venaient faire signer à la table Jules Ladoumègue, Simone Baron, bon, je veux dire. Et on avait parlé, et elle m'avait dit à soi, bon, vous me préparez un budget. Mais on a passé le week-end chez elle. Chacun dans notre piole, puis il y avait le service et tout ça. Et c'était une femme formidable. Et alors, Simone Baron, elle choisit un plat. Et je lui dis, Simone, attention, ici, c'est la Bourgogne. Moi, je commande pas le vin. Elle dit, oh, mais moi non plus. Alors, évidemment, on appelle... Le type, là, comment il s'appelle, qui s'occupe du vin, là, tu vois, ça me manque l'idée. Et qui vient, et j'explique. Voilà, madame ne boit pas beaucoup de vin, mais évidemment, ici, on ne peut pas faire autrement. Mais qu'est-ce que vous avez choisi, madame? Ça. Bon, je vais vous préparer votre vin. Il choisit les vins. Elle trouve ça bien, on parle, tout ça. Elle aurait été un peu pompette à la fin, que ça n'aurait... Bon. Alors je dis à Jules, on n'était pas loin de chez ces gens-là, on repartait à pied. On repart à pied, on la tenait chacun de notre côté. Elle dit ça, ah, mais j'ai mon Jules. C'est notre fait. Et on passe, et dans le, c'est un petit village, et dans un coin, il y avait un mec qui pissait contre un arbre. Alors, on dit, mais vous voyez, voilà, je suis une femme. Mais moi, si je veux faire pipi, il faut que j'enlève un pantalon, ma culotte, et je ne peux pas me mettre contre un arbre. Regardez ce type, il est heureux. Il sort son cornichon. Et il est heureux. Alors bon, on est arrivé au château, enfin, cette grande maison. La patronne avait téléphoné à une femme de ménage, une femme de service, qui s'est occupée de, qui s'est occupée de Simone Baron, qui l'a foutu au lit. Et Nadoumègue avait dit que quand il avait été en Russie, tous les matins, au petit déjeuner, ça commençait par un bol de caviar. Putain, le lendemain, on avait un bol de caviar sur notre petit déjeuner. Ça s'est passé comme ça. J'ai fait le budget, et ça s'est pas fait. Parce que cette femme, elle avait un gendre, qui se lançait dans la politique, et il a pris le budget pour faire de la politique. Et je faisais des marques de société. Et le général de Gaulle, j'étais l'affichiste du général de Gaulle, j'ai fait toutes ses affiches sous son barnum, tout ça. Et alors, figure-toi que... je fais une image de marque pour la C2I. C'est De Gaulle qui avait décidé que l'informatique, c'était quelque chose d'important et qu'il fallait qu'il y ait une société française d'informatique qui se serait appelée la C2I. Compagnie d'informatique internationale. Et alors je fais ça. Et c'était mon voisin de Bougival à qui j'avais donné l'eau pour qu'il me construise sa maison. J'étais là avant lui. Et c'était un type de Salviac. C'est-à-dire que le matin, on disait, putain, merde, dépêchez-vous, les filles, on va encore être en retard à la messe. Et alors, figure-toi que... il me dit, il ne peut pas me faire un graphisme, là. Et le temps qu'il aille à la messe, je lui fais son graphisme. J'avais fait un rond sur deux i, et le tout, ça faisait un i. Et ça devait passer en bourse sous la forme de informatique. Ils avaient créé le mot informatique et ils s'en servaient comme réseau social. De Gaulle avait décidé que... au salon d'informatique, il fallait être au milieu, là, sur la coupole à la Défense, avoir le stand du milieu et tout ça. Et puis j'avais décoré le stand du milieu, j'avais tout fait, j'ai fait tout le tour avec le graphisme, j'ai fait bon, les documentations, enfin tout autour de ce graphisme que j'avais trouvé. De Gaulle vient inaugurer. Et derrière De Gaulle, qu'est-ce qu'il y avait ? Tous les grands patrons du CAC 40, là, tu sais, les grands présidents qui essayaient de s'approcher de De Gaulle. Et De Gaulle dit, voilà ce que j'aime, voilà ce que je veux, ça c'est quelque chose. Il félicite les types qui étaient là. Et derrière lui, tout de suite, il y avait le patron de Thomson. Et avec lui, son adjoint, son vice-président. Il se tourne vers son vice-président, il dit, Jean-Pierre, ça, je veux ça pour Thompson. Un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il fait, Jean-Pierre? Il s'adresse au directeur général, qui lui dit, qui c'est qui vous a fait ça? Et l'autre lui dit, c'est mon voisin de Bougival. Il dit, d'où tu es? De Salviac. Et l'autre lui dit, moi je suis de Sarlat. Ils étaient mon cousin, il s'appelait Bouissonni. Et Bouissonni était le neveu d'Albert Carrier d'El Peyra. Évidemment, coup de téléphone. Demain, on mange chez mon maton à Neuilly. Moi, j'avais mon truc à Neuilly, mon bureau à Neuilly. Et on se retrouve tous chez mon maton à Neuilly. Alors, elle dit, voilà ce qui s'est passé hier ou avant-hier. Qu'est-ce que tu peux faire? Eh bien, moi, je vais te faire un graphisme. Oui, alors nous, on a un vieux graphisme, il a fait, on a ça. Il y a l'hexagone, tu gardes l'hexagone et après tu t'amuses avec. Et la grande conversation, c'est quand même emmerdant, c'est le gars d'ailleurs de la C2I qui a dit, c'est quand même emmerdant que la grande société française d'informatique, de trucs comme ça, avant la C2I, elle s'appelle Thomson, Houston, Oskitch, et tout le monde croit que c'est un truc anglais, anglo-saxon ou américain. Le con, qu'est-ce qu'il n'avait pas dit? Je dis rien, je mange, ils discutent de leur truc. Alors mon cousin m'a dit, bon dis donc, combien de temps il te faut pour faire ça? Ben, je lui dis, attends, je lui dis, pas longtemps, mais je te présenterai qu'un truc, sûrement. Et Ricoste, qui était le gars de Salua, qui dit, moi, il m'en a présenté qu'un, et ça marche. Il dit, parce qu'il est de chez nous, il est simple, et ce qu'il fait, c'est simple. Et tout le monde peut le comprendre. Bon. L'autre, qui avait dit anglo-saxon et tout. Moi, je prends l'hexagone et j'y fous la base de la tour Eiffel dedans. Parce que Thomson venait de se lier avec CSF, parce que De Gaulle voulait une grande société informatique, même avec Thomson. Alors, il y avait Thomson et CSF et ils se sont rapprochés pour faire une société française en expansion. Moi, con, c'est la base de la tour Eiffel. Je te fous la base de la tour Eiffel dans l'hexagone. Et à Dada. Ça a toujours été comme ça. Quand Paris, l'apéritif italien, le type... Il voit une affiche de moi, ou la présidente italienne voit une affiche de moi sur les Champs-Élysées, dit « Faites faire une affiche à Carrier. » Et le type me dit « Monsieur, je dois vous faire faire une affiche, j'ai le droit de rien vous dire. Je vais vous donner 15 bouteilles de Campari, mais ma présidente m'a interdit de vous dire quoi que ce soit. » Bon, alors je dis « Campari, oui, d'accord, je vois, oui, bon bien, qu'est-ce que j'avais pas dit? Et le gars, bladam, 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 comme moi en ce moment, pendant une heure, il débile les feuilles, les machins, les fruits, les trucs. Mais au bout d'une heure, une heure et demie, j'en avais marre. J'ai dit au mec, j'ai dit, c'était con, Campari, c'est masculin ou féminin? Et le mec, il monte sur sa chaise, le pied sur la chaise, il dit « Ok, c'est la femme !» C'est le geste qui est dans l'affiche Campari, qui a eu le Grand Prix de l'affiche, qui a eu tout ça, qui est international et tout ça. Il y avait trois ministres, machin de la Monnaie, au Palais de la Monnaie, pour inaugurer le Grand Prix de l'affiche. Le mec, il avait fait l'affiche. Et c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Alors, évidemment, on dit, mais toi, tu ne travailles pas. Non. J'attrape des trucs au vol comme ça. Mais la plupart du temps, je leur fais dire. L'autre jour, il y avait les pompiers. Attention, c'est que je suis caporal-chef des pompiers. J'aurais déjà fait des choses. Et il me parlait du calendrier de 2015. Les pompiers de Sarlat. Le type me dit, bon, ben écoute, je te dis pas si faux, ce que tu vas faire, c'est 2015. 2015, je pense, là, au téléphone. Terminé, je dessine un 5. Mais c'est pour les pompiers de Sarlat. Eh bien, le 5, il devient la salamandre. Pour terminer le 2015. C'était gagné. Après le téléphone. Mais je ne me vante pas de ça. Je me vante tout simplement de poser des questions simples, d'avoir des réponses simples. Si bien qu'avec Savignac, le grand affichiste, qui était mon collègue, on avait refusé de présenter nos affiches devant un comité. C'est toujours dans un comité. Et si on fait ci, et pourquoi il n'a pas fait ci, pourquoi il a fait ça? J'ai dit, c'est celui qui commande l'affiche, qu'il accepte ou qu'il la refuse. C'est très simple. Je te prends toutes mes affiches. Là, le général Delpech, 4 étoiles, qui était à Vitrac et qui est mort là maintenant depuis un an. Il a été déporté. Il était patron du comité des anciens déportés de Dachau. C'était mon copain. Il venait à Sarlat. Et je le voyais arriver, là, il dit, tiens, je peux pas passer sans venir te faire la bise. La bise, pour parler. C'était un copain. Attention. Hein. Il était décoré aux Invalides par Chirac et tout ça. Je lui dis, tu as besoin d'un coup de crayon, tu me le dis. Il me dit, je viens de te dire, j'ai besoin d'un coup de crayon. Je veux faire un graphisme pour mon association des amis de Dachau. Ah bon? Je lui dis, putain, qu'est-ce que vous avez dérouillé? Il me raconte un peu ce qui est arrivé. Puis je m'en doutais aussi. Puis, qu'est-ce que tu as dérouillé? Il dit, oui, mais tu vois, tout le monde sait que ça a été affreux. Mais je voudrais que de notre association, il y ait un peu d'espoir. Parce qu'on va s'adresser à nos enfants. Ils vont le savoir, tout ce qu'on nous a fait. Mais il faut qu'ils sachent que la vie est là encore. Et c'est ça qui est important. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est très simple. J'ai fait une main. J'ai fait une main qui était comme ça. Il y avait une goutte de sang qui descend de la main, qui sort de la main. Et quand on est comme ça et qu'il y a ça c'est devenu le cou d'un oiseau. Et il y a une petite branche d'olivier. Parce que ça devient la tête de l'oiseau. Et il y a la petite goutte qui tombe. Je lui fais ça. Ce gars, merde. Il m'a embrassé en pleurant. Un vieux, un général qui avait mon âge. On a 10 jours de différence. Moi, je vais avoir 90 ans, et il est ça, lui, déjà. Il aurait vu. Il dit, c'est pas vrai, allez. Bon. Il m'a invité à Dachau, j'y suis pas allé. Bon, mais déjà, mais Anne-Marie, je demande à Anne-Marie, elle a été traitée. On lui portait son manteau, lui, un peu, tout ça, un avion. Et il y a 6 mois, la fille de Delpech est venue. Elle me dit, Alain, il faut que tu nous aides. Parce qu'elle a pris la suite un peu de son père dans ce comité. Notre truc est devenu le sigle mondial de Dachau. Tout simplement parce que André, qui est venu là et qui m'a dit, oui, on en a bavé, mais je veux donner un peu d'espoir à nos enfants. C'est le rameau d'Olivier. Tu vois, alors quand on me dit on n'a rien à me dire, c'est quand tu prends ta clarinette, on ne te dit pas où il faut que tu mettes tes doigts. Je vais te dire, tous les soirs j'écoute mezzo. J'ai fait 500 pochettes de disques ou 400 et quelques pochettes de disques. La grande musique, je ne connaissais pas. Mais c'était Pathé Marconi qui me passait la commande. Et Pathé Marconi, il y avait Pierre Yégel, qui est le beau-frère de Bellemare. Et c'est lui qui a fait rentrer Bellemare dans le show business. Tu vois, ça a l'air de rien. Et je voyais Pierre Yégel, qui tous les lundis me filait une liste de 20 pochettes de disques à faire. Je suis un des premiers à avoir fait les pochettes de disques. Écoute, il me dit, je te donne tout ça, je n'en connais pas la moitié. Ça, c'est dans le catalogue. Tu sais, je connais beaucoup de choses. Par contre, tu passes à l'opéra, et la bibliothécaire de l'opéra est une copine. Quand j'ai un trou, je l'appelle. Tu lui donnes ta liste, et tu verras, elle est adorable. Et elle te va te trouver tous les arguments, enfin tout ce qui se passe dans une composition, dans un truc comme ça. Alors je le quittais le lundi, je passais le lundi soir à la Bibliothèque nationale, à l'opéra. Elle me dit, ah ben bah, tiens, donnez-moi ça, donnez-moi ça. Puis un jour, je mets sur la table une boîte de foie gras. Elle me dit, mais jeudi soir, c'était vous, et après ça a été tu. Tu passes jeudi soir, tu auras tous les arguments. Et un jeudi soir, je passe. Elle m'a dit, je suis vachement emmerdé. Il y a un concerto grosso, là. C'est du Tchaïkovski. Et j'ai rien trouvé, si ce n'est. Il a dit, j'ai mis des notes les unes à côté des autres, ça m'a plu et je l'ai appelé Concerto Grosso. Alors tu vas être emmerdé parce que tu sais que j'aime pas l'abstrait. Ah, oui, bon. Mais il y avait Apollon Musagète derrière. C'était un ballet. Mais je lui dis, tu vois, je lui esquisse, je lui dis, le ballet, tu vas voir ça par exemple. Bon. Ah ben tu fais ce que tu veux de l'autre côté, si tu veux mettre quelque chose. Et moi j'ai fait un truc abstrait, tu sais, un orchestre abstrait, là, un peu abstrait, mais enfin, on voit ce qui se passe, c'est quand même une organisation graphique, tu vois. Et puis c'est marché. Et c'est comme ça que j'ai fait mes pochettes de disques. Alors les pochettes de disques, je les portais le lundi. Le jeudi, je prenais les arguments. Et le samedi et le dimanche, je m'en faisais 20. Et à ce moment-là, je gagnais 2 500 francs, je crois que c'était 2 500 francs. J'avais un mois de 2 500 francs au printemps. Et mon week-end, il m'a rapporté 5 000 francs. Je gagnais le double par week-end de ce qu'on me donnait à la fin du mois au printemps. Et en plus de ça, je me faisais... J'apprenais un tas de choses. Et quand je parlais avec Jacques Thibault, quand il venait ici, il me disait, mais dis donc, où c'est que tu as trouvé tout ça? Eh bien, je lui dis, c'est ça. Et aujourd'hui, dans un mois, le nouveau directeur, président de l'Opéra et de l'Opéra Bastille, c'est Lissner, mon copain. Parce que, comme j'étais cofondateur du festival de Sarlat, on a fait à trois ça. Ce type-là est venu, sa troupe, il est resté deux ans de suite. C'est un connard qui s'était installé 15 ans directeur artistique du festival de Sarlat. Mais lui, il est venu avec sa troupe, il avait ses pièces, il avait ça. Figure-toi que, et moi j'ai fait l'affiche du festival avec le cheval. J'allais à Venise parce que j'avais toujours des films sélectionnés, des films publicitaires sélectionnés pour le festival du film publicitaire. D'ailleurs, j'avais des conditions pour aller à Venise, dans les hôtels et partout. Un jour, j'étais veuf à ce moment-là. Quand tu as des places gratuites dans les avions pour passer 8 jours à Venise, on n'y va jamais seul. J'étais avec ma copine à la Fenice, avant que ça brûle. Et il y avait les Indes Galantes. Je vais aux Indes Galantes. On sort de la Fenice. Il y avait la foule là. À un certain moment, elle me dit, regarde, écoute, on appelle Alain, et il y a un bras qui se lève. Ah, j'ai dit, merde, je regarde. Ah, merde, c'est mon copain. Alors, il vient là, on boit un coup à la taverne de Martigny, à côté, on discute. Alors, il était heureux, tout ça, bon. Ce type, c'était Lissner. Lissner est parti d'ici, il est passé 2 ans, pendant 2 ans il a fait festival. Il est allé tout de suite à Aix-en-Provence. Il a remonté le festival d'Aix-en-Provence. Il a fait des places populaires, pendant 10 ans il s'est battu, il a une place. Après ça, excuse-moi du peu, patron de la Scala de Milan. Après ça, patron du centre culturel de Barcelone. Et là, maintenant, il vient d'être nommé à l'Opéra. Opéra Bastille. Et ce gars, on en discutait. Alors, il était avec sa femme, je crois que c'était sa femme. Alain. Il dit à sa femme, n'écoute pas. Alain, il m'arrive une tuile. Ah bon? Parce que dans mon bureau, j'avais toujours derrière moi l'affiche du festival de Sarlat. Et dans mes déménagements, on a dû me la piquer, ou je ne sais pas ce qui s'est passé. Sa femme à ce moment-là, il a dit, je t'avais dit de le porter à la maison, ça. Bon. Alors figure-toi que... Oui, je vois ce que tu veux me demander. Alors je me tourne vers sa femme. Je lui dis, bon, bah, écoute, toi, je vais t'envoyer une affiche du festival de Sarlat, mais tu m'embrasses avant. Et ça s'est passé comme ça. Et puis Lissner, il a été Lissner, et puis maintenant je te dis qui il est. Je ne sais pas si je ne vais pas lui téléphoner ou lui écrire, mais enfin, tu comprends, C'est ça qui est formidable dans notre métier. C'est les gens qu'on rencontre.